Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Ah, tout simplement ouvrir notre Bible, et je vous propose que nous fassions une lecture connue de tous et donner quelques mots de commentaire sur cette parole, dont le but est particulièrement de non seulement d'entretenir la foi, mais d'augmenter notre foi. Alors il y a parfois des circonstances et des conditions dans notre vie qui nous servent d'école, qui contribuent à notre apprentissage, à faire confiance à Dieu. Alors on va prendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, et ce passage, ce récit, relate une drôle d'aventure qui est arrivée aux disciples, mais je pense qu'ils ont beaucoup appris. Alors, ça nous est rapporté dans 3 des évangiles, Matthieu, Marc et Jean. Et si c'est consigné de cette manière, c'est que je crois que les hommes que nous sommes, les hommes d'aujourd'hui que nous sommes, avons besoin encore de revenir à cette leçon qui est un grand pas dans la foi. Alors, je rappelle, Marc, chapitre 6, verset 45, s'il vous plaît. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était à terre, seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Voilà pour ce récit qui nous est rapporté une nouvelle fois, et cette fois par Marc. Et nous connaissons naturellement tout le contexte, puisque les faits sont pris immédiatement après une journée où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, davantage qu'un miracle, un prodige. Je veux parler de ce qui précède, c'est-à-dire que Jésus avait, dans cette journée même, multiplié les pains et les poissons, et près de 4000 à 5000 personnes avaient pu se rassasier et toucher de près toute l'envergure, toute la dimension de la puissance de Dieu, du surnaturel, à travers, tout simplement, par le fait que Jésus a rendu grâce, voyant la foule qui était affamée, ayant pris ces pains, ces quelques pains et ces quelques poissons, et ils se sont multipliés, on pourrait dire, à l'infini. Alors, nous voyons que tout cela a suscité certainement une certaine euphorie et émulation. Alors, Jésus, le mot nous les est dit aussitôt après. Dans un autre texte, après la multiplication des pains, je crois que c'est dans Jean, il nous est dit que la foule qui avait été rassasiée par le miracle voulait se saisir de Jésus pour le faire roi. Voilà. Alors, de fait, il était bien roi, mais pas comme les hommes l'entendaient naturellement. Et Marc nous rapporte cette petite histoire, un peu plus condensée que ce que nous dit Matthieu, mais nous voyons qu'il va demander à ses disciples, qui sont aussi étonnés d'avoir été contributeurs à un tel miracle, parce que c'est eux qui avaient distribué finalement ces paniers, qui étaient remplis à profusion et tous les gens avaient pu se nourrir. Nous voyons que Jésus a voulu montrer qu'il y avait peut-être encore une autre école, qu'il y avait encore une autre explication à tout cela. Et vous avez remarqué comment ce texte se termine, il nous a dit, parce que Jésus, En effet, avait constaté qu'ils étaient tellement stupéfaits, ses disciples, ils étaient remplis d'étonnement, nous rapportent les derniers versets de notre lecture il y a un instant, parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains, et en raison d'une chose, c'est que leur cœur était endurci. Voilà. Alors, quelquefois, nous pouvons être confrontés avec des choses extraordinaires, parce que moi, je crois que Dieu parle encore aujourd'hui, et il est capable de faire des choses qui peuvent nous étonner, qui peuvent nous remplir d'admiration, comme c'était le cas, mais ça n'avait pas tellement changé la nature de leur cœur. Cette stupéfaction qu'ils avaient éprouvée devant un tel prodige, avait révélé aussi qu'il y avait un endurcissement de leur cœur. Alors ça pourrait peut-être s'adresser à chacun d'entre nous ce soir, parce que nous sommes familiers avec la parole de Dieu, nous sommes familiers probablement avec toutes ces lectures extraordinaires, où l'extraordinaire ressort. Nous nourrissons des capacités infinies de Dieu et de Jésus. Mais est-ce que véritablement parfois notre cœur, on veut bien le croire pour les autres, mais pour nous? Et parfois, nous avons besoin d'un, comme on dirait aujourd'hui, un électrochoc pour nous ramener à la réalité. Et ils étaient restés certainement plus que dubitatifs. Ils étaient restés là dans une situation. Et il a fallu qu'ils passent par cette expérience, cette aventure qui va les conduire tout simplement dans une barque ce soir même, alors que la nuit est tombante et que Jésus ne va même pas les accompagner. Pourtant, le lac est très calme. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de tempête à l'horizon. Et voilà ce que nous rapporte tout simplement, et je voudrais reprendre brièvement un petit peu ce que nous avons devant les yeux. Il nous est dit qu'il a obligé à ce moment-là, après le miracle de la multiplication des pains, il a obligé ses disciples à monter dans la barque et à de passer de l'autre côté. L'autre côté devait être peut-être à peine visible, mais c'était des familiers de cette région. Un homme comme Jean, Pierre, Jacques et puis André, ils savaient à peu près où ils étaient, il n'y a aucun problème. C'était des gens qui avaient vécu sur le bord de la mer de Tibériade. Et nous voyons que Jésus avait donné tout simplement ce prétexte, « Je ne vais pas avec vous, mais moi je vais renvoyer la foule. » Jésus s'était chargé un petit peu des derniers détails de ce rassemblement qui, il faut le rappeler, il nous est dit dans un texte, peut-être celui que nous avons devant les yeux, qu'il y avait plus de 5000 personnes, juste 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez-vous cette foule, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Tous ces gens étaient venus pour entendre Jésus. Et puis, la nuit venue, Jésus a été pris de compassion parce qu'ils étaient venus se nourrir de la parole de Dieu, mais Jésus tenait compte aussi des besoins de leur corps, des besoins physiques, et ces gens ne pouvaient pas faire le retour sans s'être substanté un petit peu, et c'est comme ça que Jésus a multiplié les pains et les poissons. Alors, nous voyons que les disciples Jésus va leur intimer l'ordre, particulièrement, à monter dans la barque et finalement à traverser le lac et de se retrouver du côté de Bethsaïda, comme cela nous est dit. Alors, Jésus s'est retrouvé seul sur ce rivage du lac. Et il nous est simplement rappelé qu'après, en voyant probablement ses disciples s'éloigner dans la nuit sur cette barque, lui, il est monté sur la montagne et il a prié. Alors il est intéressant peut-être de s'arrêter simplement sur le fait que Jésus monte sur la montagne et il prie. Vous savez, les disciples ne pouvaient pas s'attendre à ce qui allait leur arriver. Je l'ai dit, je le répète, le lac était tranquille. C'était probablement une paisible soirée de printemps, puisque un autre passage nous dit que cet homme était assis sur l'herbe verte. Si vous allez en Galilée en plein été, vous verrez que l'herbe n'est pas verte. Et donc, ça ne pouvait être qu'au printemps, vraisemblablement. Et il semblait que ce soit une soirée tout à fait tranquille et paisible. Et il était loin de s'imaginer qu'il allait vivre quelque chose de, j'allais pas dire de terrible, parce qu'avec Jésus, il n'y a rien de terrible. Mais une aventure qui allait probablement les bousculer quelque peu. Et Jésus, alors, à ce moment-là, s'est élevé un petit peu, puisque toute la région est faite de collines. Jésus est monté, et puis là, il s'est mis sur la montagne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Alors, on pourrait peut-être penser, pourquoi priait-il? On ne va pas se poser la question du comment priait-il, mais pour qui priait-il? Oui, Jésus savait très bien ce qui allait arriver. Et vous savez, je pense que quand une affliction ou une épreuve ou parfois une situation douloureuse que nous ne connaissons pas encore. Moi, je suis tout à fait convaincu, et je voudrais le dire pour votre encouragement, que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais isolés. que je veux bien croire que Jésus monte aussi sur la colline et sur la montagne et il prie pour chacun d'entre nous. Avec peut-être cette interrogation, qui n'est pas l'interrogation de Dieu, mais l'interrogation des hommes, mais est-ce que nous allons tenir le coup dans la tempête? Est-ce que nous allons surmonter et être victorieux de l'ouragan, des vagues, du vent, de tout ce qui peut venir de droite et de gauche, de tous les côtés? Parce que quand vous êtes au milieu de la mer, eh bien les vagues, elles viennent de tous les côtés. Il y a des déferlantes qui vous arrivent. Alors, moi, je veux bien croire que nous avons des textes dans l'Écriture sainte et dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans ce qui nous est dit dans Romains chapitre 8, et ça, c'est une parole dont nous avons besoin de saisir les uns et les autres. Il nous est dit à un moment donné que Christ intercède pour nous. Ouais. Alors, peut-être c'est peut-être beaucoup plus difficile à croire. Pourquoi et comment, parfois, nous perdons le contrôle ou la maîtrise de nous-mêmes? Parfois, pourquoi la peur arrive-t-elle à nous submerger et à nous amener à être complètement et totalement effrayé, et puis de penser que tout est perdu et tout est fini. Je pense que les disciples sont à l'image de ce que nous sommes, ou nous sommes à leur image, dans un sens ou dans un autre, pour nous montrer que, véritablement, si nous sommes enfants de Dieu, si nous appartenons au Seigneur, si nous avons confessé Jésus comme notre Sauveur, et que nous lui avons laissé toute la place dans notre vie, que nous connaissons sa parole, que nous nous nourrissons de sa parole, donc de ses promesses, alors qu'est-ce qu'il peut nous arriver? De quoi aurions-nous peur? Qu'est-ce qui pourrait nous effrayer? Et pourtant, Jésus a laissé ses disciples aller tout seuls. Vous savez, on ne sera pas tous les jours, bien que le Seigneur soit tous les jours avec nous, à vouloir, eh bien là, ressentir ou sentir la présence de Dieu. Il arrive à un moment ou à un autre où nous devons fonctionner non pas par le ressenti, non pas par les émotions, non pas par toutes sortes de choses qui appartiennent à notre nature humaine, charnelle et terrestre, mais à un moment donné, il faut bien marcher par la foi. Et la meilleure preuve que nous pouvons donner, à Dieu que nous marchons par la foi, c'est en l'absence, finalement, eh bien, de preuves et de tout signe sensible qui pourrait nous dire, eh bien, Seigneur, je te fais confiance et toi tu me conduis à travers cette aventure et à travers ce passage et ce chemin. Vous savez, quand David nous parle que lui-même est passé à travers la vallée de l'ombre de la mort, c'est bien pour nous montrer qu'il a fait aussi cette expérience. Et à un moment ou à un autre, chacun dans notre vie, chaque homme, et ce qui est important de savoir si véritablement nous croyons ou non en Dieu, et de quelle manière nous croyons? Est-ce que nous croyons jusqu'au bout? Ou est-ce que véritablement, eh bien, notre confession de foi ou notre croyance s'arrête à un moment pour dire, eh bien, finalement, Dieu n'existe pas, il ne peut rien faire pour moi? Alors, c'est la leçon qui nous est donnée. Donc, Jésus monta sur la montagne et il pria, et moi je veux bien croire, et il me plaît de croire qu'il priait pour ses disciples. Il les voyait certainement à l'horizon, s'aventurer là, sur ce lac, où tout encore était très calme. Et je pense qu'ils priaient pour que leur foi ne défaille point. Vous vous souvenez de l'histoire de Pierre? L'histoire de Pierre où Jésus dira à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Avoir la foi, c'est une chose. Avoir la foi dans des bons moments, c'est pas difficile. Mais avoir la foi quand on est embarqué dans la tempête, quand on est dans une barque, où là tout semble calme au départ et qu'un seul coup, dans un fracas, dans un tonnerre ou un tourbillon arrive sur vous et vous êtes embarqué, emporté, sans savoir où vous en êtes rendu, en quelque sorte. Alors, le texte nous dit que le soir étant venu, parce que passer une épreuve en plein jour, c'est une chose, parce que le jour rassure, la lumière est rassurante. Mais quand vous commencez dans une épreuve, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la nature de l'épreuve, que ce soit le deuil, que ce soit la maladie, ou que ce soit une épreuve d'une façon ou d'une autre, quand vous voyez qu'il n'y a plus de soleil, que la lune n'éclaire plus, ou qu'il n'y a plus d'étoiles à l'horizon, ou au firmament, alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile. Et vous avez remarqué que souvent les épreuves, elles se succèdent, elles s'enchaînent, elles se cumulent les uns avec les autres, et d'un seul coup, la lumière s'éteint. Et ça, c'est paniquant. On a tous connu parfois certaines peurs ou certaines craintes dans la nuit, enfin la nuit comme nous la connaissons, C'est beaucoup plus difficile hein, d'aller d'un endroit à un autre. On tâtonne, on se bute, et si on n'a pas d'éclairage, et dès qu'on allume, naturellement, c'est beaucoup plus rassurant. Alors, ils sont partis, tout simplement, le soir étant venu, et ils se sont trouvés dans une situation qui était au milieu. Ce n'était pas près d'un bord ou d'un autre, parce que là, quand on voit encore l'horizon, quand on voit encore la côte ou le rivage, on se dit, je ne suis pas très loin, bien que ce soit quelquefois effrayant en pleine nuit, de devoir, s'il arrive quelque chose, eh bien de rejoindre l'un ou l'autre des côtés. Et c'est toujours assez impressionnant. Mais quand vous êtes au milieu, et vous dites, mais à droite, il n'y a plus rien, à gauche, il n'y a plus rien, devant moi, il n'y a plus rien, derrière moi, quand je me retourne, il n'y a plus rien non plus. Et c'est ce genre de choses qui peut arriver. Et c'est là, justement, où nous donnons la preuve nous donnons la preuve par l'épreuve. Et il est bien sûr que Dieu permet cela. Quelquefois, on se dit, mais Dieu ne permettra pas. Mais il le permet pourquoi ? Il le permet pour que nous passions à l'école, pour que nous puissions être véritablement des hommes inébranlables, que nous puissions faire confiance à Dieu, non pas sur ce que nous ressentons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, mais quand il n'y a plus rien à entendre, quand il n'y a plus rien à voir, et que toutes les lumières s'éteignent, alors, à ce moment-là, il faut faire confiance tout simplement à ce que Dieu dit. Je me souviens dans l'épreuve que Dieu a dit ceci. Il y a quelque chose qui est assez émouvant, et vous avez certainement fait l'expérience. Vous avez tous passé par des épreuves cruciales, je suppose, des douleurs, des chagrins. Et n'avez-vous pas, en l'absence de tout réconfort autour de vous, n'avez-vous pas senti que Dieu n'est pas à l'extérieur, mais il est en vous, à travers une parole qui vous revient, à travers une promesse qui vous revient en pleine nuit, comme ça, à travers des paroles d'un petit cantique ou d'un petit cœur. Moi, ça m'est arrivé souvent. Je me dis, mais je suis pourtant dans une situation difficile où tout pourrait me dire que je suis perdu et il y a un chant dans mon cœur. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, je crois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je vous le dis pour que vous soyez encouragés. Parce que autant l'ennemi frappe à la porte et essaie de nous renverser et de nous mettre par terre, autant le Seigneur est là. Alors ne le cherchez pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. On va le voir, il était dans la barque avec eux. Et à partir du moment où il était avec eux dans la barque a touché le rivage. Ils ont atteint le but. Alors, ils étaient au milieu de la mer. Et Jésus était seul à terre. On aurait pu peut-être faire des reproches à Jésus en disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te rends compte? Toi, tu es à terre, tu es en train de prier. Et nous sommes dans une situation qui est tellement inhabituelle pour un homme, parce que nous ne sommes pas des poissons. Nous ne sommes pas des aquatiques. Nous sommes des terrestres. Et toi, tu es sur la terre, alors que tu es capable du miracle et des choses comme ça. Et nous sommes au milieu de la mer, dans la nuit, dans l'épreuve. Alors, on ne comprend plus. Alors, je voudrais vous dire que dans l'épreuve, ne cherchez pas à comprendre. Faites confiance. J'ai eu l'occasion de rencontrer une personne cet après-midi dans une visite, et qui nous faisait venir parce qu'elle passait un moment difficile. Et surtout, en anticipation, on va en parler, anticipation d'un avenir à 4 mois, 6 mois. Je dis, mais on n'est pas encore au mois de juin. Elle avait tout ce qu'il fallait pour l'instant, dans tout ce que Dieu lui avait donné, parce qu'on peut dire que c'est Dieu qui lui a donné. Elle me dit, mais j'angoisse, je suis malheureuse, je ne suis pas bien. Alors il a suffi d'avoir un petit moment pour parler avec elle et de remettre les choses en place, de remettre les choses à leur juste place et de rassurer et de prier ensemble. Vous savez, ce n'est pas la peine de faire des grands discours. Vous savez, notre cœur, il se ressemble les uns et les autres. On peut toujours dire à celui qui passe par une épreuve, mais voilà, tu vas t'en sortir, c'est ceci et cela. Mais quand on y prend soi-même, quand on y passe soi-même, c'est beaucoup plus. On ne se souvient plus de ce qu'on a dit aux autres. Ça, on l'oublie. Alors, il se trouve dans cette situation et il nous est dit que Jésus a vu à ce moment-là. Vous vous souvenez, il prie, il est sur la montagne. Les disciples sont finalement dans cette barque. Il nous est dit que Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent était contraire. Ah, vous savez que nous pouvons dire que. Enfin, je crois qu'il y a des démentis qui sont apportés dans notre société aujourd'hui, parce que tous les hommes, depuis des décennies, il y a eu beaucoup de progrès dans notre monde. Vous vous rendez compte, c'est fulgurant en l'espace d'une centaine d'années, ou en l'espace d'une vingtaine d'années, ne serait-ce que pour améliorer les conditions de vie, de confort, de bien-être des gens. Et puis, Le mot, on ne peut pas passer autrement, hein, le pouvoir d'achat. Alors, on dit, c'est ça ce qui va rendre les gens heureux. Alors, on s'aperçoit que, quelque part, vous savez, à travers des siècles, les hommes, dans les sociétés diverses, à travers bien des temps et des générations, les hommes ont eu du mal à ramer dans la vie. Hein. La précarité, la maladie, la mort, les vies qui étaient écourtées, les guerres et toutes sortes de choses. Croyez pas que l'humanité a ramé depuis les temps immémoriaux. Alors on avait pensé que on ne ramerait plus. Alors je voudrais quand même vous souhaiter la bonne année. Et une chose qui est certaine, c'est qu'on s'aperçoit que plus que peut-être nos pères ou nos grands-parents, nos ancêtres, on s'aperçoit que nous sommes dans une société qui rame. Vous savez pourquoi elle rame ? Parce qu'il y a des vents comme toujours, parce qu'il y a des vagues, parce qu'il y a le noir, parce qu'il y a l'obscurité, parce qu'il y a la mort, parce qu'il y a les menaces de guerre, parce qu'il y a ceci et cela. Mais vous savez pourquoi on rame de plus en plus ? Parce qu'on a trop chargé la barque. Et plus une barque, plus un bateau est chargé, plus c'est difficile de le manœuvrer. Hein. On connaît à Saint-Nazaire, hein. On travaille tous dans les chantiers navals. Hein. Ouais. Mais toujours est-il que c'est difficile. Et je crois que le problème, c'est qu'on se charge de trop. On a trop chargé notre vie. Et on avait pensé peut-être que les inquiétudes disparaîtraient parce qu'on aurait ceci, on aurait cela, on avait des facilités, on avait des sécurités, des assurances, etc. Et on s'aperçoit que le monde continue à ramer. Et il rame de plus en plus. Et il semblerait que on n'est pas loin de voir les vagues passer par-dessus le bastingage. Ouais. Et quelquefois, on est en train de nous avouer que quelque part, on risque de passer au fond. Ah oui. Eh bien, Jésus avait vu que ses disciples avaient du mal à ramer, pas pour les mêmes raisons que notre génération ou que les hommes de notre temps, mais ils avaient du mal, de la peine à ramer, et tout cela parce que le vent était contraire. Il y a dans la vie des vents favorables, mais il y a des vents redoutables aussi, qui surviennent, inattendus, qui nous prennent à l'improviste, et qui sont là pour nous saisir et nous demander « mais qu'est-ce que nous allons devenir ? Qu'est-ce que nous allons faire ?» Alors avant que les choses, comme je le disais à notre ami cet après-midi, avant que les choses arrivent, est-ce que nous avons raison de nous inquiéter ? Parce que vous ne savez vraiment pas ce qui va se passer. Ben oui. Le problème de l'inquiétude, on parle de se faire du mauvais sang. Puis bien des expressions, hein, je crois qu'il y en a des dizaines et des dizaines autour de la question du tracas, etc. Mais pourquoi se faire du souci quand on ne sait pas ce qui va arriver et quand on anticipe des choses qui probablement n'arriveront pas ? Parce qu'une fois que on a passé l'épreuve, on se dit à soi-même, on ne va pas le dire forcément aux autres, mais on le dit à soi-même, mais qu'est-ce que j'ai été, enfin moi je parle pour moi, qu'est-ce que j'ai été bête de m'inquiéter, parce que ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été comme ça. Et d'autant plus, lorsque nous sommes chrétiens. Parce que les gens du monde, que les gens de l'extérieur s'inquiètent, parce qu'ils n'ont peut-être pas d'expérience dans celui qui voudraient pourtant se révéler à eux, mais un enfant de Dieu qui a fait déjà des expériences et qui a oublié les expériences et qui ne se souvient pas finalement par où il est passé et que dans un moment d'épreuve, eh bien, il a tout oublié, il se dit « Mais Seigneur, cette fois-ci, c'est fini. » Alors, je crois qu'il y a des leçons à apprendre. Nous avons des leçons à recevoir du Seigneur. Alors, les vents étaient contraires. Et puis, vers la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire au petit matin, parce que vous savez, l'épreuve, c'est long. On espère toujours que ça soit court. Puis on s'aperçoit que, une fois qu'on est rentré dedans, on se dit, mais c'est impossible, c'est épouvantable. C'est comme quand les hommes font la guerre. Vous savez, ils partent tous comme cela en vainqueurs en disant, bouh, la guerre c'est une affaire de quelques jours. Puis quelquefois ça dure 4 ans, ou 5 ans. Hein ? Parce que quand on est dedans, c'est un cycle, c'est comme une mécanique. Vous voyez, ça nous emporte et on est bacboulé de droite et de gauche comme ça. Et on ne sait plus comment arrêter la machine et arrêter un petit peu ce tourbillon. Alors, vers la quatrième nuit de la veille de la nuit, c'est-à-dire au petit matin, vers 6 heures du matin, 5-6 heures le matin, c'est à peu près cette équivalence. Eh bien, c'est à ce moment-là que Jésus est descendu de la montagne, il a cessé de prier et il a commencé en marchant sur la mer. C'est inhabituel. Eh bien, aller vers ses disciples dans l'épouvante, ses disciples dans la crainte et dans la peur. dans l'effroi. Il aurait pu venir plus tôt. Et c'est la grande question qui nous est posée à chacun et que nous nous posons nous-mêmes lorsque nous sommes dans l'épreuve. Mais Seigneur, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Pourquoi as-tu tardé? Pourquoi j'ai passé tout cela? Pourquoi j'ai vécu tout cela et que tu n'as semblé ne même pas entendre mes prières et mes cris? Oui. C'est ce que Marc et Marie reprocheront à Jésus quand leur frère Lazare est mort. Mais Seigneur, pourquoi tu as attendu si longtemps pour venir? Oui, mais Jésus n'était pas venu pour guérir Lazare. Il était venu pour faire plus. Il était venu pour le ressusciter. Et imaginez-vous, quelques instants, que quand Dieu tarde à nous exaucer, ce n'est pas pour faire ceci et cela, c'est pour faire plus que ce que nous avons pensé. L'apôtre Paul l'écrira en lettres de feu. Hein. Il dira, mais à celui qui peut, au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous pouvons demander, eh bien c'est ça ce que Dieu est capable de faire. Et l'épreuve, elle va beaucoup plus loin dans ses résultats bénéfiques et dans la bénédiction de Dieu que ce que nous avons pensé. Et les grandes épreuves dans notre vie, elles nous apportent de grandes bénédictions. Il faut se le dire. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je souffre, j'ai mal, je crie, tu n'entends pas, tu ne réponds pas. Mais Seigneur, je crois qu'à la quatrième veille de la nuit, tu viendras. Au petit matin, tu viendras me délivrer. Parce que le Seigneur délivre. Connaissez, hein, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et non pas seulement de ses détresses, mais de l'environnement qui le met en détresse. C'est autre chose. Alors, cette quatrième veille, le petit matin, il est allé vers eux, il marchait sur la mer, et il semblait vouloir les dépasser. Oui. Seigneur, tu peux me dépasser, hein, parce que je sais que tu es tout puissant. Mais ce qui les a effrayés, c'est que Jésus n'était pas un homme comme tout le monde. Parce que moi, si je vois quelqu'un marcher sur la mer, ça va être étonnant, hein. On voit des gens marcher sur la mer hein, en ce moment, hein, si vous allez sur la plage, mais ils ne marchent pas vraiment, hein, ils sont sur des planches, hein, voilà, où ils se laissent porter par le vent, mais ils ont quand même quelque chose de très matériel, hein, c'est très, très physique. Hein. Mais là, Jésus marchant, la tempête fait rage, les vents étaient contraires, ça bouscule dans tous les sens, et lui, il arrive à passer à travers. Oui. Vous savez que nous avons besoin de Jésus dans notre vie, pour avoir une perspective, et si nous bougeons, si nous nous tremblons, si nous nous sommes, eh bien, ballottés de droite et de gauche, lui ne bouge pas. Il marche. C'est rassurant. Hein. C'est ça ce que nous avons vraiment besoin de comprendre. Moi, si je bouge, Seigneur, si je tremble, toi, tu ne trembles pas et tu ne bouges pas. Alors, si je dois regarder vers quelqu'un, c'est vers toi. Hein. C'est pas vers ceux qui crient dans le bateau avec moi, qui sont en train d'hurler de peur et ceci et cela. Non, c'est vers toi que je dois regarder. Alors, quand ils le virent, marcher sur la mer, c'est ça ce qui les a étonnés. Hein. Ils avaient déjà vu la multiplication des pains et des poissons. Et ils avaient été stupéfaits, ils avaient été complètement ébahis, se disaient « mais comment ça peut se faire ?» Mais vous savez, le miracle précédent aurait dû leur donner la foi pour le miracle que Jésus est en train de leur préparer. On oublie tellement. Nous avons tous fait des expériences avec le Seigneur. Des choses extraordinaires. Et on se dit, oui, cette épreuve dans le passé, elle était terrible. Mais celle que je vis aujourd'hui, c'est encore plus terrible. N'oubliez jamais par où vous êtes passé et comment le Seigneur vous a délivré par où vous êtes passé. Et ça, on l'oublie. Hein. Seigneur, donne-moi la mémoire de ta puissance. Donne-moi la mémoire des expériences que j'ai faites hier avec toi. Et comment tu as été grand, comment tu as été puissant. Comment tu m'as rassuré, comment tu m'as délivré. Et comment tu m'as sauvé, Seigneur. Parce que si tu m'as sauvé hier, tu vas me sauver encore aujourd'hui. Je le crois. Seigneur, j'attends l'aurore. J'attends la quatrième veille de la nuit pour que tu viennes me délivrer. Mais alors, ils n'avaient que les yeux pour voir quelqu'un qui marchait sur les vagues. Et ils crurent à ce moment-là que c'était un fantôme. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un fantôme? On se verra tout à l'heure après la réunion. Vous me direz, ce serait intéressant de savoir. Un fantôme. Ah oui, vous savez ce que c'est? Alors, on va voir comment ils ont interprété les choses. Ils crurent que c'était un fantôme, et parce que ils ont imaginé que c'était un fantôme, des hommes aguerris, des hommes chevronnés, des hommes de la mer, des hommes qui avaient l'habitude des tempêtes, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé des cris. Pas des cris de joie, hein? Non, ni d'allégresse. Des cris de peur et de crainte. Ah, ils n'avaient jamais vu ça. Moi, je voudrais vous parler des fantômes de notre imagination. Ça vous arrive de penser? Hein? Je pense donc je suis. Hein? Parce que le jour où je me suis arrêté de penser, je ne suis plus. Hein? Alors, les fantômes de l'imagination. On est plus ou moins imaginatifs les uns et les autres. Hein? Peut-être les dames plus que les messieurs. Quoique là, c'était des messieurs. Hein? Vous connaissez l'histoire des origines et de la genèse des fantômes de l'imagination? Ça s'est passé un beau matin ou un beau jour, parce que tout était beau à l'époque, dans le jardin d'Éden. Ouais. Parce qu'ils avaient entendu une voix perfide, une voix de destruction, une voix de mensonge. Et là, ils se sont mis à imaginer. Ils n'ont pas imaginé dans la vérité, ils n'ont pas imaginé dans la lumière, ils ont imaginé dans la nuit et dans une parole mensongère. Et c'est à partir de là que l'homme s'est mis à imaginer des choses qui n'existent pas. Il s'est fabriqué des spectres, il s'est fabriqué des fantômes. Et depuis, le monde est tenté par des fantômes. Vous avez entendu parler des maisons hantées, hein? C'est la maison, c'est là que ça se passe. Hein? Ouais. Dans le livre de la Genèse, la peur. Parce que tout ça, eh bien, ça génère. Et l'origine de tout cela, c'est la peur, nos peurs. Et s'il y a quelque chose dont nous avons besoin de demander à Dieu qu'il nous délivre, pour que nous ayons une grande foi, il faut d'abord mettre l'ennemi à genoux et le vaincre. Et l'ennemi que nous avons à vaincre, c'est la peur. Et à ce moment-là, vous verrez que votre imagination, elle va se tourner dans le bon sens. Je m'imagine que le Seigneur va me délivrer. Je m'imagine qu'il est puissant, qu'il m'aime. Je m'imagine qu'il ne me condamne pas, qu'il ne me juge pas, mais qu'il me sauve quand je crie à lui. Or, très souvent, nous imaginons le contraire. Dieu me juge, Dieu me punit, Dieu ne veut plus de moi, Dieu ne peut rien faire, Dieu est incapable, il n'entend pas mes prières. C'est plutôt un peu ce refrain que nous sortons. Hein. C'est ça ce que nous avons besoin d'être guéris. Les fantômes de l'imagination. Et à ce moment-là, eh bien, nous tombons dans l'océan, dans le lac, dans la mer, de la non-maîtrise de nos pensées. Vous savez, ça fait du mal, les pensées. Hein. Les pensées vagabondes, les pensées volatiles ou volages, comme vous voudrez, les pensées que nous n'arrivons pas à maîtriser. Ce n'est pas les pensées de rêve, c'est les pensées de cauchemar. On a tous cette faculté. Hein. Et ces pensées que nous n'arrivons pas à juguler parce qu'elles sont plus fortes que nous, elles nous dépassent. Et là, nous nous mettons à imaginer, à voir, à entendre toutes sortes de choses qui sont autour de nous. Parce que vous savez pourquoi? Parce que nous nous fions beaucoup plus à nos sens, à nos réactions sensitives, à nos émotions, que véritablement de nous mettre dans la position de la foi où nous disons, « Mais Seigneur, moi, je crois que tu es mon sauveur et que tu vas me sauver. » Mais on regarde beaucoup plus de droite et de gauche, on écoute le vent, on regarde les vagues, on voit que ça bouge dans tous les sens, on se dit « Oh là là, je suis au milieu, en pleine nuit, c'est terrible, et Dieu n'est pas là. » Mais Dieu est là. Dieu est là. Il n'est pas avec nous, il est en nous. Je crois que nous avons besoin de développer les uns et les autres, de savoir que Dieu n'est pas avec nous, il est en nous. Il a fait sa demeure en nous, il nous a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans mon corps, il y a cette dimension aussi qui contient et qui est réservée justement eh bien, à ma personnalité, à mon tempérament, à mon caractère. Le Seigneur est là. Moi, je le crois. Et vous savez, ça change tout dans notre approche. Pour gérer les problèmes, pour être renforcé, pour être fort. Seigneur, délivre-moi de mes pensées qui me persécutent. Délivre-moi de ces choses qui me tourmentent. Il y a besoin d'une délivrance. C'est quelque chose d'immatériel, la pensée. Alors, on peut aller voir naturellement un psychologue ou un psychiatre. Il va vous donner des médicaments. Vous allez avoir un apaisement. Mais ce n'est pas ça dont je parle. C'est celui qui est capable de garder en paix, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est lui qui garde. Seigneur, garde-moi, donne-moi d'être guéri dans mes pensées, avant de me guérir dans mon corps, avant de me guérir d'une situation peut-être désastreuse conjugale, familiale ou autre chose, d'un problème professionnel, chômage. J'ai besoin d'être guéri à l'intérieur, ça commence par là. Parce que vous savez, si on n'est pas guéri, ça sera toujours une source d'exploitation pour l'ennemi. et il aura la maîtrise sur nous. Et il nous fera faire comme des petits garçons, eh bien, ce qu'il veut. Et nous ne vivrons pas dans la paix, nous vivrons dans le trouble. Nous vivrons dans la tempête et nous vivrons dans la nuit. Comme ces pauvres se trouvent dans la barque. Parce que nous tomberons tout simplement dans l'enchaînement de l'inquiétude. Vous savez, hein, c'est difficile. Hein, l'inquiétude, le tracas, qui nourrit nos craintes. On sait bien les choses, on sait que Dieu est capable de faire. Mais nos craintes sont plus fortes que ce que dit Dieu. Sont plus fortes que, finalement, eh bien, cette dimension spirituelle que Dieu a mis en nous. Plus fortes que la parole. Nous voulons bien croire à cette parole, c'est vrai. Mais la crainte est plus forte que ça, en disant, mais si Dieu, parce qu'on met des si, vous comprenez, mais si Dieu, c'est ceci, c'est cela. Alors, ce sont des fantômes de l'imagination. Et puis, il se trouvait dans une situation qui était difficile, c'était l'incertitude et l'insécurité. Et c'est là où le diable nous attaque. Ah ouais, quand tout va bien, on peut dire, on peut chanter des cantiques, on peut dire, mais Seigneur, je te remercie, tu es merveilleux, ma vie est formidable. Mais quand on est dans une situation d'incertitude, parce qu'il n'y a rien de plus mouvant qu'un bateau, une coquille de noix sur la tempête. Hein. L'incertitude, l'insécurité. Et c'est là justement où il y en a un qui nous attend. Il essaie de nous déstabiliser. Il essaie de nous faire perdre pied, voyez. Hein. Avoir le pied marin, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça peut bouger de tous les côtés, mais nous on ne bouge pas. Sans avoir des nausées et des vertiges. Eh bien c'est ça justement. Et c'est par là où nous passons parfois. Où nous sommes déstabilisés, nous ne comprenons plus rien à rien, nous ne savons plus où nous en sommes rendus. Alors c'est dans ce climat-là, c'est dans ce contexte-là que Dieu veut nous parler. Vous savez, ce n'était pas pour rien qu'après l'Égypte, Dieu a conduit par Moïse les Hébreux dans le désert. Et le désert, ce n'est pas la mer, mais c'est une forme d'océan, de solitude, de sécheresse, de dépaysement, qui fait qu'on est facilement dépaysé dans le désert. Hein. Parce que là, vous avez des dunes à perte de vue, rien du tout d'autre. On n'est pas habitué à cela, on n'est ni habitué à l'océan, ni habitué au désert. Et pourtant, Dieu a fait passer les Hébreux par le désert pour leur apprendre les grandes leçons qui allaient leur servir ensuite à rentrer dans la bénédiction de Dieu, qui était le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, pour pouvoir vivre une vie à la gloire de Dieu. On y passe. Et puis, il y a quelque chose qui quelquefois augmente, comme c'était le cas probablement pour ses disciples. Ils étaient à peu près 12, certainement dans le bateau, je peux penser qu'ils étaient 12, les 12. Mais ils n'étaient pas loin de la terre, mais ils sentaient leur isolement et leur solitude. Là, c'est aussi un facteur de fantôme de l'imagination quand on est seul, ou quand on se croit seul. Parce que vous savez, quand on passe par l'épreuve, on se dit « je suis tout seul ». On pense qu'on est les seuls à avoir passé par cette épreuve. Et quand vous en parlez autour de vous, vous allez vous apercevoir qu'il y a non pas seulement des dizaines, des centaines, mais des milliers de personnes qui sont passées par là. Avec des résultats différents, avec des échecs ou avec des victoires. D'une façon ou d'une autre. Mais méfions-nous de l'isolement. Parce que quand on n'est pas bien, on a tendance à s'isoler, vous comprenez? Je ne suis pas bien, je n'ai pas envie d'enquiquiner les autres, excusez-moi le langage, mais je n'ai pas envie d'embêter les autres avec mes histoires. Alors on se met de côté. Enfin, vous le comprenez ça? Moi c'est un peu ma réaction, hein. Quand je ne suis pas bien, on n'entend plus parler de moi. Hein. Je le dis parce que je me connais. Hein. Voilà. Mais c'est souvent la réaction que nous avons humainement par là. On tire le rideau, on se renferme, on ne dit plus rien. Mais ce n'est pas une bonne solution. Pas une bonne solution parce qu'on est en train de s'envenimer soi-même. On est en train de s'empoisonner. On est en train de se distiller des toxines négatives. Ouais. Et ils étaient dans l'isolement, dans la solitude. Il faut dire qu'ils étaient au milieu de la mer en pleine nuit, hein. C'est vrai. Alors attention, parce que quand la nuit survient, quand on est dans la tempête, faites attention à l'isolement et à la solitude. Puis ils avaient une chose, c'est qu'ils étaient conscients de leur faiblesse. Ah, peut-être que c'était bien de sentir qu'ils avaient besoin de Dieu. Parce que les gens qui n'ont pas besoin de Dieu, bah, qu'est-ce que vous voulez? Ils se disent, mais moi j'y arriverai avec la force de mon poignet. C'est comme ça qu'on se perd. C'est le meilleur moyen d'aller par le fond, hein. D'une façon ou d'une autre, vous le pensez. Mais ils avaient conscience à ce moment-là de leur faiblesse. Eux qui avaient vu le miracle extraordinaire de la multiplication des pains, ils étaient au cœur, finalement, du problème. Là. Mais c'était eux qui étaient concernés cette fois-ci. Ouais. Ils avaient certainement faim de délivrance, faim d'un secours miraculeux, faim d'un secours surnaturel qui venait du ciel. Conscience de leur faiblesse, conscience de notre faiblesse, ce qui nous amène à crier au Seigneur. Et puis, bien souvent aussi, quelquefois, facteur de fantôme de l'imagination, eh bien, le phénomène de groupe. Il suffit que parmi ces 12 hommes, il y en a un qui crie qu'ils allaient mourir. Tout le monde a cru qu'ils allaient mourir. Et ça, faut faire attention, hein. La personne que j'ai rencontrée cet après-midi me disait « quelqu'un m'a dit que ». Je lui dis « écoutez, entre ce que quelqu'un vous a dit que, ça serait comme ça, et que ce que le Seigneur vous dit que, ça sera autrement ». Faites attention, parce que là aussi, c'est, on les voit sur la barque. Il y a eu certainement deux ou trois qui se sont mis à crier « c'est fini, on est perdu ». Tout le monde a cru qu'ils étaient perdus. Mais qui écoutons-nous? Vers qui nous allons trouver notre confiance et notre assurance ou nos certitudes? Est-ce que c'est vers des gens qui se perdent ou des gens qui se croient perdus? Ou alors nous allons véritablement écouter, étendre l'oreille et tirer nos cœurs vers celui qui nous dit « mais je suis venu pour te sauver ». C'est ça le problème. La question, elle est là. Le phénomène de groupe. Et nous sommes dans une société qui est en train de couler, excusez-moi. Une société qui est en train de faire un magistral plongeon après des décennies d'insouciance. Parce qu'il y a un phénomène, nous pourrions dire, d'un groupe, un phénomène général qui est surenchéri par des informations. Moi, il y a une chose qui me tue, enfin, je ne suis pas mort, hein, mais il y a une chose qui m'éprouve et qui m'épuise, c'est d'entendre tous les jours des mauvaises nouvelles, même quand elles sont bonnes. On trouve toujours le moyen de nous dire le contraire et de contredire. C'est pénible, hein. Quelquefois, moi, ça me... Bon, enfin, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, mais en tous les cas, on peut avoir une réaction, une pensée quand même qui soit autrement. Oui, c'est la fin du monde en 2012, hein. Le 21 décembre. Attendez, hein. Achetez-vous des masques à gaz et des parachutes. Hein. Non mais, ça va, hein. C'est bon, hein. Ça va comme ça. Hein. Phénomène, ce qui se dit, les rumeurs. Quand on voit un peu les cours de la bourse, avec des rumeurs, on est en train de dégringoler des économies. Il faut que je m'arrête, parce que autrement je me retrouve en prison. Eh bien, ça vous met une panique. Et la panique, c'est pas bon, hein, naturellement. La croyance dans le mensonge. On nourrit les gens de mensonges. On leur donne des illusions. On leur dit « vous serez heureux ». Puis ils ont dit dans la pratique, ils sont de plus en plus malheureux. Et quand on leur dit la vérité, mais ils vous prennent pour des extraterrestres en disant « mais vous y êtes pas, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe ». Je termine. Alors, ils pensaient voir un fantôme, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Ça, c'est positif. Qui écoutons-nous? Qui parle? Celui qui nous parle, c'est celui qui a la capacité et la possibilité de nous retirer de la tempête et de l'ouragan. Voilà. Rassurez-vous. Vous comprenez? Ouais? Ça va? Vous comprenez mon langage? Rassurez-vous. Non pas parce que c'est moi qui vous le dis, mais c'est parce que Jésus qui me dit de vous le dire. La différence, elle est là. Parce que vous savez, en disant ce que je dis, je me fais du bien aussi à moi-même. Hein. J'en prends quelques miettes. Eh oui, rassurez-vous, il y a un plan pour chacun. Et moi, je voudrais dire que le plan de Dieu, il est toujours bon. Je veux le voir, ton plan, Seigneur. Mais je ne pourrai jamais le voir si je suis dans une condition de peur, de crédulité et de doute en permanence. Pour que tu puisses te manifester, il faut que ma foi soit une foi vigoureuse, une foi vivante. Alors à ce moment-là, eh bien les choses vont arriver plus vite. Quelquefois, on peut dire au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu tardes? Vous savez ce que le Seigneur va nous répondre? Mais c'est toi qui tardes les choses, c'est toi qui les repousses. Fais-moi confiance. Et moi, tu vas voir, je vais te donner ce que je t'ai préparé de bon pour toi. Rassurez-vous, c'est moi, et n'ayez pas peur, puisque c'est moi qui vous le dis. Le Seigneur nous rassure par sa parole. C'est pas par des artifices, c'est pas par toutes sortes de je ne sais quoi. Il nous rassure parce qu'il nous le dit. Parce que ce qu'il nous dit, c'est sa parole. Et sa parole, elle est digne d'être crue. Pour chacun d'entre nous, tout simplement. Puis il montra vers eux dans la barque, et le vent cessa. Quand nous cessons de nous battre nous-mêmes, de nous poser mille et une questions, que nous voulons dire aux fantômes, eh bien maintenant, les fantômes, c'est terminé. cette imagination galopante, destructrice. Eh bien maintenant, je mets un terme à tout ça. Seigneur, guéris-moi de mes pensées. Guéris-moi de mon imagination, de ceci et de cela de négatif. Alors, à ce moment-là, vous allez voir que le vent, la tempête qui est à l'intérieur de vous-même, le trouble va s'arrêter. On a tous fait l'expérience. La foi rassure. La foi nous guérit. La foi nous tranquillise. La foi, c'est la paix et c'est la joie. Le vent, c'est ça. Alors, ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Mais quelle est l'origine de cet endurcissement ? C'est tout simplement de regarder davantage à nous-mêmes que de regarder au Seigneur. Et quand je regarde le Seigneur et que je vois que c'est un fantôme, alors là je me trompe complètement, parce que le Seigneur n'est pas un fantôme. Et là, c'était pas un esprit, hein. C'était Jésus en chair et en os, qui marchait d'une manière miraculeuse à leur secours. Et ils ont complètement confondu. Et quelquefois, les enfants de Dieu se trompent, les croyants se trompent, alors que Jésus vient vers eux pour les délivrer. Eh bien, de savoir que Jésus vient vers eux, ça augmente leur trouble et leur crainte. C'est véritablement se confondre et se méprendre. Alors que si Jésus vient vers nous, c'est pour nous rassurer, il le dit. Il nous dit de ne pas avoir peur, parce que c'est lui. Parce que c'est lui qui vient. Alors, j'arrête. Je vais arrêter là. Mais je pense qu'on a compris la substance du message ce soir. Et ce que nous avons à retenir, c'est qu'il faut absolument que nous arrêtions avec nos fantômes de l'imagination. Voilà. Et si nous allons prier, et nous allons prier dans quelques instants, parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre société, dans notre monde, et voire même des enfants de Dieu, qui sont malades de leur imagination et de leur pensée. Dans nos pensées. Seigneur, guéris-moi dans mes pensées. Guéris-moi dans ce que je m'imagine et qui ne sera jamais, qui n'arrivera jamais, parce que toi, tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur. Si je n'avais pas Dieu, bien sûr, je peux comprendre, mais parce que j'ai le Seigneur. Nous avons le Seigneur dans notre vie. Mais oui, alors, je crois qu'on va arrêter, tout simplement, parce que si nous disons et si nous croyons dans notre cœur que véritablement le Seigneur, c'est lui qui nous sauve et celui qui nous délivre, eh bien, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Et Seigneur, guéris-moi ma tête, guéris-moi mon cœur. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est là où nous recevons la bénédiction et l'exaucement de nos prières et la délivrance et le salut du Seigneur. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux, Jésus. Oui, tu es merveilleux. Nous voulons le dire et nous voulons l'affirmer, Seigneur. Avec cette certitude que tu as mis dans notre cœur, et cette certitude, moi, je veux la communiquer à ceux qui entendent ta parole. Oui, Seigneur, c'est une assurance de savoir que nous pouvons compter sur toi. Nous avons et nous serrons ta parole sur notre cœur, dans notre vie, parce qu'elle est précieuse. Oui, Seigneur, quand bien même les vagues de la peur, de la crainte, de l'imagination, de tous nos tourments, de toutes ces choses qui appartiennent à notre vie, seraient là autour de nous pour nous amener par le fond, pour nous faire couler. Eh bien, moi, je veux regarder, Seigneur, et je veux surtout entendre ta parole, qui me dit tout simplement, eh bien c'est moi, n'ayez pas peur, parce que c'est toi qui me le dis, je le crois, et je veux véritablement saisir une pleine et entière délivrance. Je te prie pour mes amis, afin qu'ils puissent aussi, à leur tour, te prier pour que tu les guérisses dans leurs états d'âme, que tu les guérisses dans leurs pensées, que tu les guérisses dans leur imagination, que tu les guérisses, Seigneur, peut-être des phénomènes de groupe qui sont autour d'eux, et qui fait, Seigneur, que tout ce qu'ils peuvent entendre, eh bien, et contre, en quelque sorte, Seigneur, ce que toi tu es capable de faire. Nous vivons dans un monde d'incrédulité, de scepticisme, mais nous voulons affirmer que nous sommes des croyants et des croyants vivants, et que ta parole est vivante et qu'elle nous donne la vie, Seigneur, pour aller véritablement jusqu'à la victoire et avoir une grande foi et de cette grande foi recevoir, eh bien, comme tu l'as fait ce jour-là, eh bien, Père éternel, une multiplication de bénédictions, de grâces et de délivrances. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Bénis-nous, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit et donne-nous de te faire confiance, envers et contre tout. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.